Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint,
Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la collection Ma nuit au musée, mon invité aujourd'hui s'est plongé dans un lieu atypique. Devenu mémorial depuis 2010, Montluc a d'abord et longtemps été une prison à Lyon, tristement célèbre pour l'incarcération, la torture et parfois l'exécution de nombreux résistants et juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Là, l'écrivaine a passé des heures, seule, dans le ventre de cet endroit dont les murs sont encore imprégnés des larmes, des cris, des souffrances d'hommes, de femmes, d'enfants. Un récit qui a paru sous le titre « La nuit s'ajoute à la nuit », en lice pour le prix Renaudot dans la catégorie essai, aux éditions Stock. Bonjour Ananda Devi.
Bonjour Catherine.
On vous connaît comme écrivaine, autrice d'une œuvre romanesque et poétique importante, une trentaine de titres qui vous a valu d'ailleurs cette année le prix international de Neustadt, prix littéraire très célèbre, c'est le prix 2024. Des livres qui souvent s'inscrivent dans l'histoire et la culture de l'île Maurice où vous êtes née, mais pas seulement. Et même si vous vous interrogez souvent sur les origines du mal dans votre écriture, on ne s'attendait pas forcément à vous retrouver entre les murs d'une prison. Pourquoi avez-vous accepté de passer une nuit blanche, pour ne pas dire une nuit noire, aussi à Montluc ?
Oui, tout à fait. C'était peut-être plus une nuit noire qu'une nuit blanche. Mais il faut peut-être parler un peu de la collection elle-même, dont le principe est d'inviter un auteur ou une autrice à passer une nuit blanche dans un musée de leur choix, pas pour écrire un essai sur l'art, sur un artiste particulier ou sur le musée, mais pour rapporter une expérience intime et personnelle entre l'auteur et le lieu où les œuvres exposées. Et donc, quand on m'a proposé de participer à cette collection que je connaissais déjà et que j'aimais beaucoup, mon instinct immédiat a été de proposer ce mémorial parce que je l'avais visité quelques mois auparavant dans le cadre d'un prix, justement, prix Montluc, Résistance et Liberté, et que cette unique visite d'une heure à peu près m'avait tellement bouleversée que j'ai écrit une nouvelle après, mais j'ai aussi ressenti très, très puissamment la densité du lieu, presque la pesanteur de ce lieu, puisque la prison a été gardée en l'état. Et donc, on peut visiter les cellules où ont été incarcérés les résistants, les juifs, les Algériens, etc. Et donc, l'instinct a été de proposer ce lieu, mais aussi avec une grande peur, parce que ce n'est quand même pas un lieu agréable. On peut imaginer passer une nuit dans une prison, ce que cela signifie, toute seule, et aussi avec cette charge d'histoire qu'elle porte.
Évidemment. Est-ce que c'est la première fois que vous entriez dans un lieu d'enfermement, Ananda Devi ?
Je dirais oui et non, parce que presque tous mes romans parlent d'enfermement. En fait, c'est un thème qui revient constamment, y compris dans mes romans qui datent de, par exemple, 2001, Pagli, ou Moins l'interdite, mais dans Manger l'autre, qui a été publié en 2019, là, l'enfermement est dans le corps d'une adolescente qui souffre d'obésité morbide. Donc, ce thème-là était toujours présent, mais là, j'allais me confrontée moi-même physiquement à un enfermement qui n'avait en fait rien à voir avec l'enfermement que ceux qui ont vécu là ont subi. J'étais très consciente de ce fait que j'arrivais là avec mes peurs et mes angoisses, mais ce n'était que pour une nuit.
Avant de parler d'écriture, j'aimerais avec vous, Ananda Devi, parler de cette expérience, de la façon dont vous avez procédé. Visiblement, vous êtes entrée dans de très nombreuses cellules, dont certaines sont particulièrement pénibles. Par exemple, là où 44 enfants juifs ont été retenus avant d'être déportés.
Oui, c'est vraiment le choc premier, parce qu'il se trouve que je me suis installée au rez-de-chaussée, bon, d'abord sur une chaise un peu inconfortable, mais on a aussi un petit lit de camp. J'avais posé mes affaires là, mais vis-à-vis de moi était la cellule où se trouvait la photo de ces 44 enfants de la colonie d'Izieux, qui avait été recueilli là par le couple, donc Sabine Zlatine, je ne sais pas exactement comment on prononce, et son mari, et ils essayaient de les protéger pendant la Seconde Guerre mondiale, de les protéger des rafles, parce que pour la plupart, leurs parents avaient été déjà soit déportés, soit tués, leurs parents juifs, donc c'était des enfants juifs.
Mais ils ont été dénoncés.
Ils ont été dénoncés, mais dans la photo, dans les photos, c'est un moment heureux de leur passage à Izieux. Donc on les voit rire. Vraiment, on sent que ce sont des enfants qui ne comprennent rien de ce qui va se passer après. Et quand on les voit dans ce lieu-là et on se dit 44 enfants qui ont été raflés et qui ne sont jamais revenus, ils sont tous été tués. Et au moment où il y a aussi le télégramme que Klaus Barbie a écrit pour annoncer donc, cette arrestation, il parle d'eux comme de têtes. Combien de têtes ils ont pu attraper, capturer. Et ça m'a aussi ramené au langage de l'esclavage où on parlait des hommes et des femmes et des enfants par tête, comme des têtes de bétail.
Oui, en numéraire. J'imagine qu'à chaque fois, vous deviez reprendre un peu votre respiration, Ananda Devi, que chaque cellule était une épreuve, finalement.
Oui, vraiment, parce que chaque cellule porte une photo d'une personne qui soit été emprisonnée là ou on ne sait pas exactement, mais ils sont là. Donc, il y a les plus célèbres comme Jean Moulin, Raymond Aubrac.
Qui en est sorti, lui.
Qui en est sorti, Jean Moulin. Il a été torturé à Lyon et puis en étant transporté à Paris, il est mort. Mais il y en a aussi plein d'autres dont on ne connaît pas les noms. Enfin, ils sont là, mais je veux dire, ce ne sont pas des noms familiers à tout le monde. Et pour la plupart, ils étaient tellement jeunes. C'était ça qui me frappait, que certains avaient 18 ans, 20 ans, 24 ans. Et ils s'engageaient dans la résistance avec un courage extraordinaire, qui fait qu'on est obligé de se confronter aussi à soi-même, à se dire, ben oui, qu'est-ce que j'aurais fait face à cette terreur et à ces situations atroces auxquelles ils étaient confrontés.
Et puis, si beaucoup sont morts à Montluc ou torturés au point d'en mourir lors de leur déportation, ce qui a été le cas, comme vous venez de le citer, le cas de Jean Moulin, qui était le chef de la résistance française, qui a succombé à ses blessures après. Il y a aussi cette histoire incroyable du seul homme qui a réussi à s'évader de la prison, André de Vigny, qui va d'ailleurs inspirer le film de Robert Bresson que vous citez, un condamné à mort, s'est échappé. Est-ce que vous voulez bien nous rappeler, Ananda Devi, qui était ce condamné à mort et comment a-t-il pu s'échapper ?
André de Vigny était, je crois, le plus jeune résistant à avoir été arrêté et emprisonné à Montluc, si je ne me trompe pas. Et il était engagé avec sa famille, avec tout le réseau lyonnais dans la résistance. Et lorsqu'il est arrêté, il subit des tortures effroyables dans le quartier général de la Gestapo à Lyon. Il a écrit deux livres là-dessus et il y a le film de Robert Bresson. Et ce qui ressort de cela, c'est qu'il y a à la fois un instinct de survie et une philosophie de se dire, il le dit lui-même d'ailleurs, comment il a résisté aux tortures, c'est que sa vie ne comptant plus, ses ennemis n'avaient plus d'atout.
Pour
l'obliger à avouer. Par contre, sa vie comptait suffisamment pour qu'il fasse plusieurs tentatives de s'échapper. Et il le réussit de manière, ça a l'air presque miraculeux, la façon dont il le fait. Et c'est un exemple presque épique, son récit de cette évasion, où il va tresser des cordes, parce qu'il y a le toit de la prison est constitué de verrières qui peuvent s'ouvrir. Donc il découvre comment ouvrir les verrières, fabrique des cordes pour pouvoir sortir par les verrières, traverser le mur de ronde. Et C'est à la fois héroïque et en même temps, il ne veut pas prendre le qualificatif de héros. Et je pense que c'est important de le dire aussi qu'on tente de fabriquer des héros dans l'histoire, avec l'histoire, mais ça nous empêche aussi de voir à la fois la complexité et les ambiguïtés humaines.
Alors justement, le paradoxe, c'est que cet homme héroïque aura un rôle plus qu'ambigu, plus que sombre dans la guerre d'Algérie, 15 ans plus tard. Une guerre dont certains opposants résistants algériens seront, autre paradoxe, incarcérés, torturés et guillotinés à Montluc, au même endroit, la boucle est bouclée d'une certaine façon. Oui. L'histoire se répète, les hommes n'apprennent rien, Ananda Devi.
Je crois que c'est un peu la conclusion du livre, c'est que oui, on n'apprend rien de notre propre histoire, de l'histoire des hommes. On continue à faire les mêmes erreurs, à créer des mêmes mythes mensongers aussi autour de notre histoire et à oublier que l'humain est capable du meilleur et du pire. Mais cela ne veut pas dire que ce qu'il a fait, lui, enfin ce que eux tous ont fait, leur courage, leur résistance, dans le haut sens du terme, on ne peut pas les oublier non plus. On ne peut pas les effacer parce que quelques années plus tard, ils redeviennent humains. Mais il faut se rappeler qu'on est capable de tout.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI, en compagnie aujourd'hui de l'écrivaine Ananda Devi, qui publie le récit de son immersion dans le mémorial de Montluc à Lyon, qui pendant plus d'un siècle a été une prison, avec ce texte intitulé « La nuit s'ajoute à la nuit » aux éditions Stock. Ce titre est inspiré, vous le racontez, de l'écrivain Michael Ferrier, de son récit autobiographique « Scrabble, une enfance au Tchad ». Pendant la guerre. Pourquoi cette phrase vous a-t-elle semblé être le choix le plus juste pour votre propre récit, Ananda Devi ?
Alors, j'avais apporté deux livres pour m'accompagner, entre guillemets, pendant cette nuit. L'un d'eux était « Enfant de salaud » de Serge Chalandon, qui parle du procès Barbie, mais aussi des Enfants des yeux, mais aussi de Montluc, et qui me semblait être un livre approprié à lire, parce que j'aime aussi beaucoup cet auteur. Mais j'avais apporté aussi Michael Ferrier, Scrabble, parce que j'aime aussi son écriture, sa poésie. Il y a une lumière dans sa manière d'écrire, il y a une hybridité dans chez lui qui se rapproche un peu à la mienne et on a un peu des origines assez semblables. Et je me disais qu'au moment où tout deviendrait trop étouffant, je me plongerais dans ce livre-là. Mais je me rends compte très vite que lui aussi va parler de la guerre. Je ne l'avais pas encore lu. Donc il parle de la guerre au Tchad et à un moment donné, il a cette phrase que en temps de guerre, la guerre est une nuit qui s'ajoute à la nuit. Et que ces deux enfants, que lui et son frère, qui jouent au Scrabble pendant que la guerre explose autour d'eux pour essayer de ne pas entendre, ça me semblait être en écho aussi, en résonance avec le lieu où je me trouvais. Et ça m'a tout de suite semblé être ce que je ressentais. Parce que ma nuit était très longue, c'était une nuit blanche, les heures étaient longues. J'avais l'impression que ça n'en finirait pas. Et en même temps, il y a tous ces souvenirs, toute cette douleur. Et je me suis dit, bon, ben, voilà le titre du livre.
Donc la lecture, Nanda Devi, et puis l'écriture, bien entendu. C'est une question qui, au début, reste un peu en suspens. Il semblerait que vous ne soyez pas sûre de pouvoir réussir, avec notamment cette réserve de la légitimité que vous craignez de ne pas avoir. Expliquez-nous.
C'est une grande question parce que, quelque part, la légitimité, pour moi personnellement, en tant qu'enfant d'une colonie qui a été française puis britannique et qui a hérité de ces deux langues coloniales, l'anglais et le français, qui a aussi le créole, je parle aussi le créole mauricien, qui est une langue qui est née de l'esclavage, de cette époque terrible de l'histoire de mon pays.
Sans oublier le télougou, si je peux me permettre, la langue maternelle de votre
exactement,
maman.
Exactement, où là c'est un vide, c'est une absence, en fait une perte d'une langue. Et je me retrouve souvent, même maintenant, parfois appelée à me justifier par rapport au choix de la langue. Pourquoi le français? Parce que bon, je serai en apparence jamais française, donc il faudra toujours que je me justifie pour pouvoir expliquer pourquoi cette langue m'a toujours habitée depuis l'enfance, ce que je ne peux pas expliquer d'ailleurs. Puis il y a la légitimité ou l'illégitimité de la perte de la langue que parlait ma mère, dont je parle un peu aussi, qui est le Telugu, qui est une langue de l'Inde du Sud. Il y a aussi la légitimité par rapport à cette histoire-là de la Shoah, où au départ, je me dis, mais de quel droit est-ce que je peux m'emparer de cette histoire qui ne fait pas partie de mon histoire familiale et généalogique, qui est une question qu'en général, je recuse parce que je pense que l'écrivain peut s'emparer de tous les sujets. C'est ça un peu notre, disons, notre mode d'emploi, je dirais. Mais c'est une question qui est posée de plus en plus à tous les écrivains. Est-ce que vous avez le droit de parler au nom de telle identité, etc. Et la légitimité d'une femme qui s'est souvent sentie peut-être dans une sorte de combat avec moi-même, sans doute, de me dire « mais je mérite ma place » et de ne pas arriver à revendiquer cette place d'une façon assez forte, que ce soit en tant qu'écrivaine ma place dans le monde, la présence au monde. Et moi, j'en parle. Quelle est notre présence au monde et comment fait-on acte de présence? Et c'était une question aussi qui était très importante dans le livre.
Bien sûr. Alors effectivement, ce n'est pas votre histoire, mais l'Holocauste et l'esclavage, c'est notre histoire. Enfin, c'est l'histoire de l'humanité déshumanisée qui est en nous tous. Et c'est sûr qu'en vous lisant Ananda Devi, on sent l'importance de ne pas s'interdire d'écrire, justement. Parce que se taire, ce serait participer à l'oubli. Et par exemple, on redécouvre avec vous l'existence de ces nombreuses femmes incarcérées, avec leurs bébés parfois, et qui ont été effacées de l'histoire. Et je pense particulièrement à Marie Raynouard, cette résistante dont vous restituez le courage, et c'est bien grâce à ces pages que vous lui consacrez qu'elle n'est plus ignorée, Ananda Devi.
Alors, comme vous disiez, les femmes, elles ne sont pas forcément toutes oubliées, mais un petit peu quand même. Par exemple, Marie Raynouard, j'étais déjà frappée par sa photo, son visage, son regard, mais aussi par son histoire, parce que c'était une femme à la santé très fragile, qui était enseignante, mais qui s'engage aussi dans la résistance. Elle va être arrêtée une première fois, on va lui interdire de continuer ses activités, elle les reprend tout de suite. Et lorsqu'on l'arrête une deuxième fois, là, elle est torturée, envoyée à Ravensbrück. Et à Ravensbrück, malgré ses tortures, malgré son état de physique complètement écrasé, broyé par la torture, ses co-prisonnières racontent d'elle qu'elle récitait de mémoire Tristan et Iseut chaque soir, après leur travail, etc., et que ça leur donnait un espoir, un courage. Elle les faisait s'évader, alors qu'ils étaient dans des circonstances, dans des situations effroyables, mais elle va mourir à Ravensbrück. Et donc, je pense que c'est cette femme que quelqu'un décrit comme la Joconde au bandeau noir, ce qui correspond bien à la photo qu'il y a dans sa cellule. Elle m'a vraiment touchée. Et je me dis, il y a peut-être une rue ou un lycée qui porte son nom, mais est-ce qu'on sait vraiment quelle personne elle a été, quel courage elle a eu de faire cet engagement et de continuer, de poursuivre jusqu'à la mort. C'est un peu essayer de toucher à la personne plutôt qu'au symbole. C'était ça.
Comment est-ce que vous avez procédé, Ananda Devi, pour l'écriture de ce livre? Est-ce que vous avez pris des notes? Est-ce que vous avez fait des enregistrements? Ou est-ce que c'est vraiment a posteriori, une fois que tout avait mûri en vous, que vos impressions sont ressorties? Racontez-nous.
Oui, alors au début, je ne voulais pas lire beaucoup me documenter avant la nuit, parce que je pensais que c'était vraiment le cœur du projet, c'est de se laisser entrer dans cette expérience presque comme une page blanche. Et d'ailleurs, le livre commençait par le vide. Ce qui n'est pas habituel, parce que les romanciers, bon, ils ont toujours une idée, une trame en tête de ce qu'ils vont écrire, même s'ils ont pas, ils connaissent pas tout le roman, mais quelque part. Et là, j'arrivais sans savoir.
Vous alliez vivre le livre avant de l'écrire.
Exactement, et ce qui était vraiment une expérience totalement inédite. Et je me suis mise, bon, au début, à prendre des notes, et puis je me disais, en prenant des notes, j'étais assise, donc je pouvais pas
Déambuler,
parcourir. Alors j'ai pris mon téléphone et donc une fonction d'enregistrement, et en marchant, je commence à dicter, mais en disant l'heure à laquelle je dictais ce passage, ou le moment où je suis à l'extérieur, je dis l'heure, et puis ce que je ressens dans la cour de promenade face au mur des fusillés, ou à l'un des endroits, mais on ne sait pas exactement où se trouvait la guillotine. Et quand je suis rentrée chez moi et que j'ai commencé à écrire le livre et à retranscrire mes notes, cette idée de donner chaque heure, de mentionner chaque heure, m'a semblé être une manière de structurer quelque part le livre, de faire revivre au lecteur ma propre expérience d'une très longue nuit qui semblait interminable. Vers la fin, j'arrive à 6h, 6h30, 7h... Et c'était une manière d'entraîner vraiment les lecteurs avec moi dans l'expérience que je revivais en écrivant le livre. Mais à ce moment-là, j'ai fait aussi effectivement beaucoup de recherches, lu des livres de témoignages, justement, mais aussi les livres des prisonniers algériens, un livre de René Leno qui était poète, qui n'osait pas encore se dire poète. Il n'avait rien publié de sa courte existence avant d'être fusillé vers l'âge de 33 ans, je crois, par les Allemands. Et ses poèmes ne seront que publiés à titre posthume, mais ils sont extrêmement poignants quand on repense à ce qu'il a vécu. Et leurs écrits m'ont beaucoup porté, en fait, pendant l'écriture du texte.
Alors, ce que je voudrais souligner vraiment, c'est que ce livre n'est pas seulement le récit d'un emprisonnement dans un lieu précis. C'est, d'une certaine façon, mon luxe, c'est le prisme par lequel vous regardez le monde dans sa globalité, le monde du passé, le monde d'aujourd'hui, avec cette question du courage, de l'ambiguïté, de l'once, de dignité qui peut subsister en chacun de nous, qu'on soit victime ou bourreau, et puis cette question qu'aurais-je fait. Mais plus important, il y a cette question quand même qui traverse la fin de ce récit, c'est comment arrêter ce cycle infernal de violence, d'autodestruction humaine qui, ne nous voilons pas la face, continue encore aujourd'hui, avec par exemple le sort réservé aux migrants dont vous imaginez que cette prison, elle pourrait à nouveau accueillir des migrants, comme de toute façon dans certains pays du monde, les migrants sont accueillis, je mets plein de guillemets, dans des lieux fermés, voire dans des bunkers.
Oui. Pendant l'année où j'ai écrit ce livre, je ne pouvais bien sûr pas m'empêcher d'être imprégnée par les échos du monde. Et c'est une année où il y a eu une escalade de la violence, des conflits, la Palestine, les bombes, la terreur de ces populations, le nombre de migrants qui vont mourir en Méditerranée. Tout, disons, je devenais un peu comme une éponge et que je recevais toute cette violence du monde qui était un miroir de ce que je racontais dans le livre. Je ne pouvais pas m'empêcher de réfléchir à cela aussi, bien sûr.
Qu'est-ce que ça a changé pour vous, cette expérience, Ananda Devi? Alors peut-être pas de façon intime, mais est-ce que vous sentez que dans l'écriture, quelque chose a bougé?
Je pense que à travers mes romans, l'idée de l'engagement a toujours été là, cette envie d'aller vers les marginalisés, vers ceux qu'on n'entend pas, de me mettre à la place de ces personnes qui vivent des tragédies abominables. Là, il fallait vraiment que je me mette moi-même un peu à l'avant de ce livre en disant « je », tout en acceptant que je ne pouvais pas prétendre que cette nuit me permettrait de comprendre absolument ce qu'ont vécu ces personnes qui ont été emprisonnées là. Mais c'était une façon aussi d'assumer ce jeu et d'assumer cet engagement personnel aussi bien que littéraire et de me dire que on est dans un monde où on n'a plus le droit de se cacher peut-être derrière la fiction qui permet aussi d'aborder des ambiguïtés que aujourd'hui les discours ne permettent pas, que je n'aurais peut-être pas fait quand j'étais plus jeune, mais aujourd'hui je me dis c'est un livre qui compte pour moi en tout cas puisque j'y suis tout entière et aussi toute ma vision du monde et ma pensée profonde.
Merci beaucoup Ananda Devi d'être venue nous parler de ce récit bouleversant La nuit s'ajoute à la nuit qui paraît donc dans la collection Ma nuit au musée chez Stock. Et je voudrais aussi citer deux autres publications qui permettent de vous connaître peut-être un peu mieux. Ce magnifique texte « Deux mâles et une marmite » qui est dans la collection « Quel est ce mystère d'écrire ?» où là vous nous révélez tout votre parcours d'écrivaine. Ça a été publié aux éditions Projectile de la même façon que « En poche » chez cet éditeur vient d'être réédité un livre qui était épuisé « Rue la Poudrière », votre premier roman,
oui.
Ananda Devi, qui est un texte très fort, pas reposant du tout, comme le dit d'ailleurs avec beaucoup de justesse Mohamed Bougarsar qui signe la préface de ce texte. Mais on est très heureux en effet de pouvoir lire ce texte que vous aviez publié il y a quelques années. Encore un mot pour dire que cette émission est dédiée à toutes celles et ceux qui sont enfermés, qui sont derrière les barreaux, privés de liberté, retenus en otage. Et je voudrais citer particulièrement Cécile Kohler, cette enseignante française emprisonnée arbitrairement en Iran depuis plus de 2 ans, on pense à elle.
Bien sûr.
Merci.
Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon.